9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
AVS, à votre santé, bienvenue, ravi de vous retrouver. Alors que la communauté scientifique continue d'afficher officiellement du mépris pour ce qu'on appelle les médecines alternatives, nous nous penchons ce matin sur l'impact de la psychologie et de notre cerveau dans la guérison. Oui, nous allons parler d'auto-guérison avec nos invités. Aujourd'hui, Alex Feiter, bienvenue.
Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation.
Vous êtes animateur, réalisateur et producteur de télévision et aujourd'hui, vous êtes organisateur d'événements. Vous organisez un événement à la rentrée qui s'appelle Se Guérir.
Absolument.
Le samedi 14 septembre de 10h à 19h au Grand Rex de Paris, avec la participation de 12 experts de renommée internationale. Quel est l'objectif de cet événement ?
L'objectif de cet événement, c'est de proposer aux spectateurs de poser un nouveau regard sur la santé. Et pour ce faire, on va ouvrir avec un point scientifique parce que les choses bougent dans ce domaine, notamment en épigénétique, en neurosciences ou en physique quantique. Et je pense que la santé d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec la santé d'hier et qu'il est important que le public soit informé.
Avec nous le docteur Antoine Sénang, bienvenue.
Merci, bienvenue.
Vous êtes neurologue, auteur de « Guérir quand c'est impossible ». On parlait de santé alternative, c'est une expression que vous n'aimez pas, vous, la santé alternative et les médecines alternatives.
Non, moi, c'est vrai que les médecines alternatives me font penser à l'expression aussi « médecine parallèle ». Et moi, je suis plutôt un défenseur de la médecine perpendiculaire, c'est-à-dire des médecines qui croisent la route de la médecine conventionnelle. Et il ne faut pas, je pense, mettre les médecines alternatives en parallèle et loin de la voie de la médecine conventionnelle. Je pense qu'il y a des points d'intersection. Et c'est ce que j'ai essayé de développer dans ce livre.
Voilà, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Guérir quand c'est impossible », où vous vous penchez sur les questions de ce qu'on appelle des rémissions spontanées et les pouvoirs thérapeutiques du mental, ce que dans votre jargon on appelle des singularités, en tout cas en médecine.
Oui, les singularités, malheureusement il n'y en a pas beaucoup en médecine, et particulièrement dans ma spécialité, parce que je suis neurologue, et c'est vrai que c'est une spécialité qui nous confronte à des maladies dégénératives, comme la maladie de Parkinson, comme la maladie d'Alzheimer, la maladie de Charcot, et qui en 2019 ne sont
toujours,
pas traitables.
Toujours
malheureusement,
aujourd'hui.
Voilà. Donc en fait je suis un médecin, un thérapeute sans thérapeutique. Donc, c'est vrai que je suis particulièrement sensible aux autres voies de guérison indépendantes, mais qui croiseront, je pense, un jour les voies de guérison conventionnelles.
On va faire un quiz pour commencer. Quelles questions vous aurez posé Hippocrate vers 400 ans avant Jésus-Christ, si vous étiez allé le consulter pour une maladie que personne n'arrivait à guérir?
Ah ben, la plus belle question qu'on peut poser en médecine, c'est qui êtes-vous? C'est vrai qu'Hippocrate ne demandait jamais où avez-vous mal, quel est le problème qui vous amène. La première question d'Hippocrate, c'était qui êtes-vous? Et je pense qu'elle résume bien la bonne manière, justement, d'approcher un malade en se disant qu'un malade, c'est pas simplement une maladie qui vient vous consulter, c'est un homme avec des symptômes, et il faut pas simplement s'attacher aux symptômes, c'est à la partie émergée de l'iceberg, mais à l'ensemble de l'humain. Mmh. Qui êtes-vous ?
Il y a quelque chose qui m'a surpris dans votre livre, c'est que vous écrivez qu'il faut se méfier des jeunes médecins.
Pourquoi? Ah oui, ah ça, je l'assume tout à fait.
Pourquoi? Ça m'a choqué parce que je me suis dit finalement peut-être que...
Mais vous savez pourquoi je dis ça? Parce que j'ai été un jeune médecin.
Ouais.
Malheureusement, c'est derrière moi.
Mais c'est tellement vrai en plus.
J'ai tout à fait pris la mesure de mon incompétence et de l'imposture finalement que j'ai revêtu comme un vêtement pendant des années en faisant semblant de savoir. Or, vous savez, j'ai travaillé, j'ai fait ce qu'il fallait pour avoir mes diplômes, pour être à mon avis compétent sur le plan médical, mais en réalité rien ne remplace l'expérience. Et c'est vrai que quand vous voyez les jeunes médecins jetés aux urgences à la sortie des bancs de la faculté, vous ne mesurez pas à quel point effectivement vous prenez des risques en allant consulter ces jeunes médecins. Moi je suis pour les médecins mûrs.
Et vous admettez que jeune vous avez pu commettre un certain nombre de...
Bien sûr, comme je crois.
D'erreurs de jeunesse.
Bien sûr. Moi je fuis les jeunes thérapeutes même aujourd'hui quand je vais consulter pour moi. Je ne consulte jamais un médecin en dessous de 40 ans.
Alex, vous êtes le plus jeune ceinture noire de karaté à 14 ans.
Oui,
ça,
absolument.
C'est votre but officiel. Alors, je ne sais pas si vous avez fait du storytelling ou...
Non, c'est vrai. Ça a été vraiment ma première histoire d'amour. J'avais 12 ans. J'ai commencé relativement tard le karaté. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents, notamment un papa qui m'a beaucoup accompagné, qui m'a permis de faire de nombreux stages avec des maîtres japonais. Et effectivement, j'ai obtenu ma ceinture noire, première dan, à l'âge de 14 ans, ce qui m'a valu ce titre.
Voilà, après, vous avez plusieurs vies, vous. Hein.
J'ai eu plusieurs vies.
Vous avez une vie de champion d'arts martiaux, vous avez une vie télévisuelle.
Oui, alors je pense qu'on est tous multiples et qu'on a tous quelque part plusieurs vies en une. C'est vrai que j'ai toujours avancé dans ma vie, dans des projets, des activités qui étaient à l'instant T des extensions de qui j'étais à ce moment-là. Je pense vraiment que nous ne sommes pas figés, qu'on s'optimise tout au long de notre vie et que du coup, le monde extérieur doit refléter ce monde intérieur.
Mais aujourd'hui, on a changé l'approche des préparations, notamment psychologiques, des champions. Est-ce que vous, quand vous étiez un jeune sur les tatamis, finalement, vous aviez déjà un coach ou un entraîneur qui vous préparait psychologiquement à combattre ?
Alors, je pense que la dimension mentale est extrêmement importante dans les arts martiaux et dans les sports de combat. D'autant que moi, j'ai commencé et je me suis entraîné avec des adultes. J'ai grandi à Bourg-la-Reine dans les Hauts-de-Seine et il n'y avait pas en fait de cours pour les enfants. Et le professeur a accepté que je m'entraîne avec des adultes. Et pour moi, il était très challengeant en fait à la fin de chaque cours de combattre avec des grands, j'ai envie de dire. Et donc, c'était aussi émotionnel. Un travail sur moi important voilà, pour tenter de me mettre d'égal à égal et de dépasser finalement certaines pensées limitatives.
Alors pour comprendre un petit peu votre parcours, vous avez organisé il y a quelques temps une conférence qui s'appelait Les mystérieux pouvoirs de l'esprit humain,
oui.
Qui a cartonné. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes là en train d'organiser des événements sur l'esprit, sur les pouvoirs de l'esprit?
Alors en fait,
est-ce qu'il y a un événement dans votre vie déclencheur qui vous a dirigé vers cette piste?
Alors je pense que oui, il y en a eu plusieurs. Ça fait un peu boule de neige. Mais l'événement déclencheur est résolument ce voyage que j'ai fait en Inde lors de l'été 2014. Moi à la base, je suis producteur de documentaires et à cette époque, je bossais beaucoup, toujours avec beaucoup de passion parce que les projets. Si j'ai monté ma boîte, c'est justement pour faire des films qui correspondent à mes valeurs et les partager avec le plus grand nombre. Mais j'étais un peu à côté de la plaque parce que voilà, moi depuis mon enfance, on me dit, on me fait comprendre qu'il faut réussir dans la vie et que j'étais un peu arrivé au bout d'un truc où je faisais un métier qui me plaisait, enfin tout allait bien, mais il y avait un truc à l'intérieur qui n'allait pas. Je pense que j'étais clairement en quête de sens et j'ai fait ce voyage en Inde. C'était une cure ayurvédique qui m'a remis clairement les pendules à l'heure. J'ai découvert.
C'est quoi une cure ayurvédique, pour ceux qui n'en ont pas pratiqué, parce que ça reste quand même pour un grand nombre d'entre nous quelque chose d'un petit peu abstrait.
La médecine ayurvédique, c'est la médecine indienne qui est millénaire et qui donc justement, pour reprendre ce que vous disiez un petit peu plus tôt avec Antoine, considère le malade ou le patient tout simplement comme un individu à part entière. Et donc c'est vraiment un traitement personnalisé. Donc là, je me suis retrouvé pris en main par un médecin qui m'a posé un tas de questions, des questions extrêmement fouillées pour comprendre qui j'étais.
Du genre ?
En fait, quelles étaient les épreuves dans ma vie que je pensais avoir résolues, quelles étaient les émotions aujourd'hui qui me traversaient et qui me paralysaient, quel était mon état de stress à ce moment-là, ma nourriture, enfin une multitude de questions extrêmement personnelles et détaillées et qui du coup ont amené un protocole de soins que j'ai suivi. Et là j'ai été pris en main en ce qui concerne l'alimentation. J'ai eu un vrai déclic sur l'alimentation qui est effectivement la première médecine, résolument. Prise de conscience au niveau du stress, je ne savais pas que j'étais stressé parce que j'ai toujours été stressé et que pour moi c'était mon état naturel. En fait, je n'avais pas de comparatif, donc j'étais, pour moi c'était l'état naturel. Là, c'était un électrochoc. Et puis la rencontre avec le yoga et la méditation qui ont été pour moi vraiment des accélérateurs à particules, c'est-à-dire que là s'est enclenché, s'est développé un travail de désidentification d'Alexandre, de qui je suis, pour vraiment ressentir profondément l'être que je suis et qui est pluriel, qui est en perpétuelle évolution, et que les mystérieux pouvoirs de l'esprit humain, en fait c'est ça, c'est-à-dire que c'est né, c'est l'envie de partager. Je me considère aujourd'hui comme un passeur, peu importe que ce soit des documentaires, que ce soit des films et peut-être demain d'autres supports. Ce que je souhaite, c'est partager vraiment avec le plus grand nombre des sagesses, des clés qui permettent de transformer sa vie en profondeur et de manière concrète.
Maintenant, vous inventez un nouveau genre, je ne sais pas comment on la prononce, c'est la Kumpf. Allez-y.
La conf expérience.
La conf expérience.
Ça vous plaît ou pas?
J'adore.
Vous adorez.
Franchement, là.
Ouais, non, conf.
Je pense que là vous avez, il y a un grand brainstorming qui est réuni. C'est facile à prononcer pour tout le monde. Conf expérience.
La conf expérience qui, comme son nom l'indique, est un mix entre conférence et expérience. Parce que j'adore les conférences, mais c'est vrai que je m'ennuie très rapidement. Au bout de 2-3 heures, j'ai la tête qui est en surchauffe. Et même si ce qui est dit sur scène est génial, je n'en peux plus. Donc en fait, ce que je voulais proposer, c'est un nouveau format de conférence. Je viens encore une fois du monde de l'audiovisuel. Donc c'est de transposer mon savoir-faire en termes d'image, en termes de rythme, en termes de mise en scène, pour proposer aux spectateurs vraiment une aventure. Et c'est-à-dire d'avoir des conférences, des conférences avec des intervenants comme Antoine Sénanc, bien évidemment, mais avoir, je produis du contenu vidéo exclusif.
Donnez-moi une idée d'expérience qu'on pourra vivre sur scène.
Bah, il y a vous, déjà, je crois que vous allez faire une expérience en live, me semble-t-il.
C'est exactement, donc je vais dans un aquarium, et on voit combien de temps je tiens la tête sous l'eau.
Mais sans mourir.
Alors, il y a un truc avec des gongs, par exemple.
Absolument.
Alors, expliquez-moi.
Alors en fait, absolument, il va y avoir donc ce qu'on appelle le gong bass, qui est donc un bain de gong. Donc ce seront 12 gongs géants qui seront sur la scène du Grand Rex et qui vont immerger les spectateurs dans une expérience durant laquelle ils vont pouvoir faire l'expérience du pouvoir des vibrations sur le corps. Aujourd'hui, on sait scientifiquement que le son et les vibrations ont des effets sur nos systèmes et que c'est cette expérience notamment que les spectateurs vont pouvoir vivre. Donc c'est très simple, il suffira juste de se détendre, de fermer les yeux s'ils le souhaitent et de ressentir dans le corps la puissance de ces vibrations.
Avec des instruments qui viennent, qui ont été faits exprès
Ah oui, c'est des gongs, ça s'appelle, c'est assez spectaculaire, on appelle ça des gongs planétaires. C'est des gongs qui sont juste géants, qui sont fabriqués de manière traditionnelle, ils sont uniques au monde. Et ils viennent pour la première fois au Grand Rex.
Bien, donc il y a aussi une séance de Tipeee, donc c'est pas une séance avec les Indiens. Je sais, je suis drôle, j'ai des auteurs l'été, j'ai des auteurs incroyables. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'une expérience de Tipeee?
Alors, le Tipeee, en fait, c'est une méthode qui a été créée par un Français qui s'appelle Luc Nicon, qui a une histoire absolument incroyable. En fait, Luc avait un handicap qui l'a empêché, un problème avec l'apprentissage. À l'âge de 18 ans, il n'avait jamais réussi à lire plus d'une page d'un livre, et donc il avait ce blocage. Et à l'âge de 13-14 ans, il va perdre un œil, et pendant 6 mois, il va être plongé dans le noir, et là, il va découvrir son monde intérieur et voir comment le monde des émotions, en fait, sont à l'origine de son blocage. Et il va transcender tout ça, partager ensuite son savoir avec des personnes qui sont aussi en difficulté pédagogique, et lors d'une séance, il va découvrir que la méthode qu'il proposait peut permettre de libérer les personnes d'émotions polluantes. Et le Tipeee, aujourd'hui, est pratiqué par des milliers de thérapeutes à travers le monde. Et ce qui est très intéressant avec Luc, c'est que ce n'est pas juste une expérience qu'il va proposer, c'est qu'il va enseigner sa méthode. Luc souhaite que les personnes qui partiront du Rex puissent avoir cette méthode et l'utiliser à foison.
Une autre méthode et une séance de mantra thérapie collective.
Oui.
Donc
qu'est-ce qu'on va mantraliser? Alors le mantra, ce sont ces petites phrases chantées qui vont permettre aux spectateurs de faire l'expérience du pouvoir du son sur le corps. Ce sera Sophia Stillraver, la biographe du Dalai Lama, qui elle était atteinte d'une maladie neurologique, justement. Elle n'arrivait pas à se soigner et elle a été un jour amenée à se retrouver en Italie, dans le bureau du docteur Nida, médecine tibétaine, qui va lui enseigner un mantra, et ce mantra va lui permettre de se guérir définitivement de cette maladie neurologique. Les spectateurs vont pouvoir faire l'expérience du mantra avec Sophia.
Voilà, donc pour tous ceux qui aiment toutes ces expériences, c'est une expérience vraiment inédite, le 14 septembre, de 10h à 19h au Grand Rex. On en parle jusqu'à 10h sur Beurre FM.
À votre santé, reviens dans un instant. « 9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM. »
On parle de l'auto-guérison ce matin avec mes invités autour d'une conférence qui va avoir lieu à la rentrée. C'est un événement inédit, ça s'appelle Se guérir. C'est le samedi 14 septembre, c'est à la rentrée, 10h-19h au Grand Rex. On en parle aujourd'hui avec Alex Fighter. C'est votre pseudo, Alex.
C'est un pseudonyme, je m'appelle Alexandre Chavoué et absolument Alex Fighter est un pseudo.
Animateur, réalisateur et producteur de télévision, et c'est vous qui organisez cet événement au Grand Rex. Vous êtes venu ce matin avec le docteur Senanque, Antoine Senanque, qui est neurologue, auteur de Guérir quand c'est impossible. Justement, qu'est-ce que vous répondez, vous, à quelqu'un qui vient vous voir et quand la médecine ne peut plus rien pour lui, d'une certaine façon?
Pendant des années, je lui ai répondu à peu près ce que répondent toujours les médecins, c'est-à-dire, écoutez, il faut, je vous accompagne dans cette maladie que je ne peux pas guérir, et il faut croire en l'avenir de la médecine, de la recherche, qui devrait nous amener dans un an, cinq ans, dix ans à trouver d'autres solutions.
Je suis bien gentil, mais moi, en tant que patient, j'ai pas cinq ans ou dix ans à vous donner.
Voilà, c'est exactement en fait le processus intellectuel que j'ai fait. C'est vrai que j'ai dit ça pendant des années. Puis un jour, je me suis dit que mes patients méritaient effectivement mieux qu'une promesse virtuelle et un rendez-vous à trois mois. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, dans la mesure où il y a beaucoup de maladies qui résistent à la médecine, il est un peu arrogant de rester protégé par cette barrière scientifique. Et ce serait peut-être pas mal de voir, en dehors des voies de médecine conventionnelle, si on ne peut pas trouver des voies de guérison perpendiculaires à cette médecine. Et parmi ces voies de guérison, c'est vrai que les voies spirituelles m'ont paru les plus solides.
Voilà.
Ce d'autant que...
Vous appelez-vous la médecine spirituelle.
La médecine spirituelle.
Ouais.
La spiritualité en médecine, de toute façon, on en a tous l'expérience. C'est-à-dire les rapports entre l'esprit et le corps, particulièrement en neurologie. Tous les neurologues en ont eu des expériences, on va dire, presque quotidiennes. Combien de fois j'ai vu des poussées de sclérose en plaques déclenchées par un choc psychologique, par un trouble de l'humeur, une dépression, une perte, un deuil. Combien de fois j'ai vu l'apparition, par exemple, d'une paralysie faciale apparaissant justement à la suite d'un choc important. On vit de manière très très quotidienne, très régulière, les liens entre l'esprit et le corps, et plutôt sur un plan négatif, c'est-à-dire qu'on perçoit bien à quel point les chocs psychologiques, l'esprit peut faire mal au corps. Et à partir du moment où on reconnaît ça et on en a l'expérience, l'inverse vient...
C'est ce qu'on appelle l'effet nocebo.
Exactement.
C'est-à-dire que vous arrivez à expliquer que l'effet placebo, ça fonctionne, parce que l'effet nocebo fonctionne.
Oui, parce qu'il y a encore des médecins qui remettent un peu en question la réalité de l'effet placebo.
On est en plein dedans avec le déremboursement de l'homéopathie. Ouais.
L'effet nocebo, les médecins peuvent pas nier, puisqu'ils ont tous l'expérience. Mais à partir du moment où ça se fait dans un sens négatif, vous pouvez bien comprendre que ça se fait à l'évidence dans un sens positif. Et si l'esprit peut faire du mal au corps, beaucoup plus, il peut lui faire énormément de bien et conduire justement sur les voies de l'auto-guérison. Alors pour parler de l'homéopathie, je trouve ça très fâcheux.
J'adorais votre chapitre sur l'homéopathie, franchement.
Oui, parce que c'est d'abord une diabolisation d'une technique qui est pas une technique de charlatan, une technique alternative qui vient de sortir. C'est vieux.
Ce qu'on vient de nous dire.
C'est vieux, l'homéopathie.
C'est sérieux. On nous dit que c'est une technique de charlatan qui fonctionne pas. Voyez.
Non, mais c'est. Je
vous
pense.
Vous expliquez comment l'inventeur, il a inventé ça, comment il a essayé sur lui-même, comment il a testé tous ses résultats.
Oui, moi je trouve que ça c'est très respectable. C'est une belle histoire. L'homéopathie qui commence en 1789, c'est facile de mémoriser la date du début de l'homéopathie, ça s'invente pas, bien que ça n'ait rien à voir avec la Révolution française. Donc ça commence en 1789 et ça commence par un burn-out. Moi j'adore les histoires de burn-out parce que je trouve que c'est très enrichissant.
On appelle pas ça
la dépression.
Un burn-out, on appelle ça peut-être une dépression ou un surmenage.
Oui. C'est un médecin qui fait donc un des premiers burn-out rapportés dans l'histoire de la médecine et qui se rend compte qu'en fait que son exercice de médecin ne débouche sur rien puisqu'il a très peu de traitements, tous ses malades s'aggrave et un jour il dit ça suffit. Et ça suffit, soit j'arrête la médecine, soit j'essaie de trouver une autre voie et de reconstruire en fait une autre médecine. Et ce gars-là, qui s'appelle Samuel Hahnemann, qui est le fondateur de l'homéopathie, a essayé sur le meilleur cobaye du monde, c'est-à-dire soi-même, lui-même, tous les traitements possibles de l'époque. Et donc, c'est quand même un aventurier, vous voyez, c'est pas le charlatan qui vend n'importe quoi, c'est un type qui pendant des années...
Il a eu la fièvre pendant des années, gars.
Absolument, il a pris les plantes les plus toxiques pour essayer de bien analyser les effets sur lui, comment les décrire, comment les atténuer, et il a créé une autre médecine. Alors après, ces médecines parallèles à la médecine conventionnelle posent un vrai problème, puisqu'on les teste avec les mêmes outils que la médecine conventionnelle, c'est-à-dire des études collectives. Or, le problème des médecines parallèles, les médecines de type homéopathie, c'est que ce sont des médecines totalement individuelles et qui reposent souvent sur des éléments d'intuition. Et ça, ça ne se mesure pas dans les méta-analyses. Et je trouve que c'est aberrant de tester ces médecines avec les mêmes outils que ceux qu'on utilise dans les médecines scientifiques qui ne sont pas adaptés. Et la dernière chose là-dessus, pour terminer, c'est que je trouve très dommage qu'on diabolise l'homéopathie. Qu'est-ce qui va se passer? On va retirer finalement l'homéopathie des facultés, on va retirer l'homéopathie des mains des médecins, puisque je rappelle que la majorité des homéopathes sont des médecins, et faire en sorte que l'homéopathie là, devienne véritablement une médecine autre et une médecine ouverte aux charlatans. Donc c'est un effet très pervers de la bonne conscience scientifique d'aujourd'hui.
Mais c'est un peu votre histoire finalement, cette histoire de l'inventeur de l'homéopathie, puisque vous-même, en tant que neurologue, vous vous êtes rendu compte que vous étiez souvent en échec par rapport aux traitements que vous pouviez proposer à des traitements qui avaient soit la maladie d'Alzheimer, soit la maladie de Parkinson, soit la maladie de Charcot. C'est d'ailleurs la maladie de Charcot qui vous-même, avec cette théorie du petit ver vide, va vous amener peut-être à revoir votre façon de penser en tant que praticien.
Oui, tout à fait. J'ai eu une expérience de consultation avec une patiente qui a une maladie de Charcot et qui a été assez révélatrice pour moi. Je la suivais de consultation en consultation en voyant son état se dégrader de manière tout à fait exponentielle. Et un jour, je m'étais attaché à cette patiente, on avait des rapports un petit peu amicaux, on va dire. Et en fin de consultation, il y a quelque chose, une phrase qui m'est sortie lorsqu'elle me demandait si elle devait prendre un rendez-vous à l'hôpital. Je lui ai dit, mais écoutez, plutôt que de prendre un rendez-vous à l'hôpital, vous voudriez faire un pèlerinage à Lourdes. Et je lui ai dit ça vraiment très, très amicalement. C'est sorti comme ça. Et c'est vrai qu'à l'époque, comme aujourd'hui, on a plutôt plus de chances de guérir d'une maladie de Charcot en faisant des pèlerinages qu'à l'hôpital, puisqu'il n'y a pas de traitement possible. Et la réaction de cette patiente m'a beaucoup frappé, parce que quand je lui ai dit vous devriez faire un pèlerinage, sa réponse a été très claire. Elle m'a regardé avec un air très, 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 très surpris et m'a dit, donc docteur, vous m'abandonnez. Alors, donc docteur, vous m'abandonnez, ça voulait dire que lorsqu'on propose une voie spirituelle à une patiente qui est dans un cadre médical scientifique qui ne l'aide pas plus que ça, eh bien cette voie spirituelle est considérée comme une voie d'abandon. Et c'est ça que j'ai voulu essayer de changer avec ce bouquin, en essayant justement d'expliquer et de faire en sorte que ces voies autres que les voies de guérison scientifique classique sont des voies qui devraient s'intégrer dans le cadre scientifique et qui ne sont pas des voies d'abandon, qui sont des voies tout à fait constructives et qui peuvent déboucher sur d'authentiques améliorations, voire des guérisons.
Alors, vous êtes neurologue, donc on ne va pas vous accuser de charlatanisme. L'auto-guérison ou la guérison spontanée du corps, est-ce que c'est un mythe?
Ah non, ça, l'auto-guérison, c'est quelque chose c'est de tout à fait
par
reconnu
la médecine,
scientifiquement.
La médecine le reconnaît scientifiquement.
Ah oui, oui, non, ça, là, il y a aucun médecin qui nie l'existence réelle de l'auto-guérison. Il y a eu des études scientifiques très bien achalandées qui ont démontré ça, notamment dans les années 90, où il y a des Américains qui ont fait une méta-analyse, une réunion de beaucoup d'études sur plus de 30 ou 40 années d'expérience de guérison, en reprenant, en fait, tous les cas publiés dans la littérature scientifique de guérison spontanée. En fait, on a découvert, ils ont colligé à peu près 1500 cas de guérison inexpliquée, d'auto-guérison reconnue par la science, qui touchait surtout des cancers. Chez l'adulte, des cancers de la peau, le mélanome, qui est le cancer le plus ouvert à l'auto-guérison, si je puis dire. Et puis, chez l'enfant, plutôt des cancers du système nerveux de neuroblastome. Donc ça, c'est tout à fait reconnu.
Alors maintenant, dans votre observation, la dimension mentale comme facteur d'auto-guérison, comment est-ce qu'on peut l'observer, comment est-ce qu'on peut la quantifier?
C'est très difficile de quantifier la dimension mentale, mais cela dit, il semble qu'elle existe, puisque justement dans ces analyses, ces méta-analyses sur les auto-guérisons scientifiques, donc là on n'est pas du tout dans la médecine non scientifique, eh bien il y a eu plusieurs facteurs qui ont été identifiés comme des facteurs favorisant ces auto-guérisons, c'est-à-dire des facteurs qu'on a retrouvés chez les patients qui guérissaient et qu'on ne retrouvait pas chez les autres. Alors parmi ces facteurs, il y a des facteurs environnementaux et surtout des facteurs immunitaires, c'est-à-dire que les gens qui guérissaient avaient une immunité plus forte que ceux qui ne guérissaient pas.
Dès le départ, où elle était renforcée?
Alors c'est difficile parce qu'on n'a pas le contrôle avant l'apparition de la maladie, donc d'accord. On ne sait pas d'où ils partent, si on peut dire. Mais manifestement, leur immunité était plus forte, parce que c'est un des grands problèmes du cancer, ça, c'est que comme les cellules cancéreuses dérivent en fait de nos propres cellules, elles ne sont pas assez étrangères pour notre organisme pour déclencher une grosse réaction immunitaire de la taille de celle que, par exemple, on déclenche lorsqu'on rencontre un agent infectieux extérieur.
Et là, la fièvre, tout de suite, vient aider.
Oui, la fièvre vient aider, absolument. Donc, dans le cancer, parfois, l'immunité, finalement, n'est pas assez forte. Et bien, chez les patients, les quatre patients qui auto-guérissaient, les éléments qui permettaient de quantifier cette immunité étaient manifestement beaucoup plus puissants que chez les autres. Et parmi les facteurs mentaux, mais qui croisent justement ces facteurs immunitaires, il y avait effectivement un état d'esprit de la guérison. Alors l'état d'esprit de la guérison, c'est justement le dynamisme, l'esprit positif, l'espérance, la volonté de s'en sortir, des éléments qu'on ressent.
Ouais, hein, enfin, là, j'avais envie de vous dire, j'ai pas besoin de vous inviter pour voyez, je peux le trouver tout seul.
Bien sûr, mais cela dit, c'est validé scientifiquement, si vous voulez. C'est vrai que ça, c'est de l'intuition. On sait bien qu'effectivement, on a plus de chances de sortir d'une grippe si on veut absolument s'en sortir vite.
Si on a envie d'aller travailler demain, voilà, si on a envie de passer une semaine au lit.
Mais ce qui est intéressant, c'est que ces facteurs psychiques sont reliés à des facteurs biologiques. C'est-à-dire que l'esprit prend véritablement corps en nous. C'est-à-dire que l'esprit de guérison positive, et ça on a très bien vu ça avec l'effet placebo, a une traduction chimique, une traduction biologique. C'est-à-dire que vous avez plus de leucocytes qui se défendent contre les infections ou contre les attaques des cellules cancéreuses. Vous avez des modifications qu'on peut quantifier dans le sang, et vous avez même des modifications, semble-t-il, génétiques qui sont induites justement par ces facteurs psychologiques. Donc c'est des choses qui sont très étudié, surtout dans le cadre de l'effet placebo, mais c'est des choses réelles. L'esprit n'est pas différent du corps. L'esprit prend corps en nous.
Vous écrivez dans votre livre que les progrès les plus sensibles en neurologie ont été la chirurgie de la maladie de Parkinson. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut guérir d'une maladie de Parkinson ?
Non, on ne peut pas aujourd'hui guérir d'une maladie de Parkinson. La chirurgie de la maladie de Parkinson, ça a été un gros progrès dans le cadre de cette maladie. En fait, c'est une chirurgie qui permet finalement de traiter les patients touchés d'une maladie de Parkinson, pour lesquels les traitements habituels médicamenteux de la maladie de Parkinson sont insuffisants, notamment pour diminuer un tremblement extrêmement important et invalidant. Et cette chirurgie de la maladie de Parkinson, qui en fait est de manière très schématique et un peu l'équivalent de la pose d'un pacemaker, l'équivalent d'un pacemaker sur des structures cérébrales qui sont impliquées dans la maladie de Parkinson, a des effets parfois mais absolument spectaculaires sur des tremblements majeurs qui résistaient à tous les traitements. Donc ça, c'est vraiment un grand progrès.
Ouais, ça concerne
les symptômes. Hein, ça ne retentit pas sur l'évolution de la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson aujourd'hui, on ne sait pas la traiter. Ce d'autant dont on ne connaît pas sa cause en réalité.
Alors Alex Feiter, vous organisez cet événement à la rentrée qui concerne autour de la santé dite alternative, hein, je mets des guillemets, ça s'appelle Se Guérir, samedi 14 septembre de 10h à 19h. À qui ça s'adresse ? Est-ce que ça s'adresse à des gens qui sont malades, qui voudraient apprendre comment guérir grâce à la puissance de l'esprit, ou ça s'adresse à d'autres personnes ?
C'est une très bonne question, parce qu'on s'est on a eu une grosse réflexion quant au titre de cet événement. C'est vrai que le titre.
Ça veut dire que les gens qui viennent sont malades, voyez.
Se guérir. Après, notre baseline, la phrase en dessous, et venez poser un nouveau regard sur la santé. Pour répondre à votre question, c'est un événement qui s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire aux personnes qui sont en souffrance, et pas forcément des maladies physiques, mais aussi maladies psychologiques, et aux personnes en bonne santé. C'est-à-dire que les informations qui vont être partagées ce jour-là ont pour objectif de vraiment permettre aux spectateurs de vraiment laisser exploser tout leur potentiel vital. Donc qu'on soit en bonne santé, qu'on soit en moins bonne santé, cet événement est un événement résolument grand public. J'espère aussi, et je sais que de nombreux professionnels de la santé seront là. Nous sommes en étroite communication actuellement avec des écoles aussi, notamment de naturopathie, parce qu'il m'importe aussi que nous ayons de futurs professionnels dans la salle, à qui d'ailleurs on propose des tarifs évidemment très particuliers. Donc en fait, je pense que les informations qui vont être partagées ce jour-là seront des informations updatées de 2019, des informations fraîches, et qu'il est indispensable pour tout le monde, c'est notre bien le plus précieux, notre santé, de vraiment savoir comment vivre bien, vivre mieux et vivre pleinement.
Alors comment on s'inscrit si on veut participer à l'événement, Alex ?
Eh bien écoutez, c'est très simple. Il y a un magnifique site web qui s'appelle seguerrir.fr sur lequel vous trouvez toutes les informations concernant les intervenants, les angles des interventions, la bande-annonce et évidemment tout le protocole pour réserver sa place.
Alors on parle d'auto-guérison. Dans un instant, nous serons en ligne avec Gilbert Delmarmol qui lui a guéri d'une tumeur au cerveau qu'il raconte dans une histoire qui s'appelle « Tomber plus haut ». Restez avec nous jusqu'à 10h.
À votre santé, reviens dans un instant. À votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
AVS, à votre santé, nous parlons d'auto-guérison ce matin. Nouvel invité, il s'appelle Gilbert Delmarmol. Bienvenue sur Beurre FM.
Bonjour.
On va parler d'un cas d'auto-guérison, hein. C'est votre histoire ce matin. Vous avez déjà raconté d'ailleurs cette histoire dans deux livres, hein. Le premier s'appelle « Tomber plus haut » et le deuxième s'appelle « Sans plus attendre ». Alors on revient, si vous voulez bien, à l'année 1994, vous avez 30 ans, vous êtes en pleine ascension professionnelle à cette époque-là.
Oui, c'est exact. Oui.
Et vous faites ce qu'on appelle alors, un burn-out, j'imagine qu'à l'époque on n'appelait pas ça un burn-out, mais plutôt du surmenage.
Oui, c'est-à-dire en pleine ascension professionnelle avec, comme le dit la chanson, du succès dans mes amours et dans mes affaires. Je suis diagnostiqué avec une tumeur dans la boîte crânienne, dont l'origine probable, suivant les médecins, est vraiment un surménage qu'on appelle aujourd'hui un burn-out.
Ouais. Qu'est-ce qu'ils vous disent à l'époque, les médecins ?
À l'époque, ils me disent, d'abord, le moment de l'annonce est toujours assez intense, ils ne mettent pas de gants, c'est assez direct. Donc, ça faisait des mois que je traînais des problèmes énergétiques, de mal-être, voire de dépression la nuit, ce qui ne correspondait pas à mon état d'être.
Ouais.
Et puis, lors d'un scanner, le médecin a identifié une tumeur située sur l'hypophyse. Et ben, on vous annonce ça de façon directe en disant, rappelez dans une semaine, on verra si c'est cancéreux ou pas. Et puis, voilà, c'est comme je dis, prendre un 30 tonnes en pleine figure,
ouais.
Vous laisser seul au bord de la route. Voilà, et puis c'est d'abord une descente au plus profond d'un lac glacé et noir. Et puis, il faut apprendre à remonter tout seul.
Alors, heureusement, la tumeur est opérable, hein, on vous le dit.
Oui, la tumeur est opérable. On s'est dit que les premières semaines, ils ont essayé de la réduire avec des injections, de la radiothérapie et autres. Puis ça ne fonctionnait pas. Ça n'avait comme seul effet que d'empoisonner le reste du corps. Donc, je suis hospitalisé 1er juillet et fin août, on décide d'opérer pour enlever la tumeur.
Alors, vous êtes opéré avec succès, comme on dit, à l'époque. Mais quel était le pronostic ? Qu'est-ce qu'on vous prédisait à l'époque ?
Je suis opéré avec succès, bien qu'à l'époque, c'est une opération extrêmement invasive qui consiste à rentrer dans la tête pour extraire la tumeur. Donc, on ne remontait pas toujours de la salle d'op, c'était compliqué. Mmh. Et puis, en sortant quelques jours après l'opération, le médecin vient me voir et me dit « Bon, ben, au rayon des bonnes nouvelles, on vous a retiré la tumeur, donc vous êtes en vie ».
Oui.
Vous n'êtes plus aveugle non plus, puisque la tumeur compressait le nerf optique. Mais il dit le problème, c'est qu'en retirant la tumeur, on a retiré l'hypophyse également.
Mmh.
Et vous ne pouvez pas vivre sans hypophyse. Ce qui veut dire que pour le restant de vos jours, vous risquez d'avoir des gros problèmes, à savoir un état dépressif latent permanent, une stérilité annoncée, une espérance de vie réduite fortement, et puis surtout la nécessité de vivre sous médication pour... le restant de vos jours.
À quel moment vous avez compris qu'il fallait, d'une certaine façon, si vous acceptez le mot, vous reconstruire ?
Ben, c'est pas un point de basculement précis à une date précise. C'est quand vous assemblez des pièces du puzzle, quand le médecin m'a annoncé en fait ce diagnostic qui ressemblait plutôt à une sentence. Les deux mois qui avaient précédé l'opération m'avaient permis un travail d'introspection, d'essayer de comprendre pourquoi, l'origine de la maladie.
Et là, vous comprenez que d'une certaine façon, on fabrique sa propre maladie.
Voilà, le médecin qui était extrêmement progressiste, le docteur, le professeur en endocrinologie, m'avait dit, tu sais, il existe un lien entre ton état émotionnel et ton système immunitaire, entre tes pensées et ton système cellulaire. En clair. Il dit, on sait que après un divorce, un licenciement, un gros problème, un deuil, ben, le système immunitaire est profondément fragilisé. Et donc, il dit, tu mets du stress que tu as parce que tu dois gérer des grosses affaires, mais tu mets dessus du stress très négatif, comme l'amertume, de la colère, des rancœurs non exprimées. Il dit, ben, tu fabriques ton propre poison. Et en regardant les 12 mois qui avaient précédé, pour des mauvaises raisons professionnelles, c'est exactement ce que j'avais nourri en moi.
Et vous avez pris conscience donc que c'est vous qui aviez donc fabriqué votre maladie ?
Le médecin n'a pas été culpabilisant, il ne m'a pas dit « voilà, tu as fabriqué ta maladie ». Il dit « probablement que si tu as nourri ce genre d'émotions ou de pensées, tu as créé un terreau fertile pour qu'une pathologie latente puisse émerger ». Et donc à partir de ce moment-là, je me suis dit « tiens, si j'ai été capable de presque me tuer par une mégestion de mes émotions et de mes pensées, je pourrais aller au-delà de ce que me dit la science si je change mon hygiène de vie ». Et j'ai décidé effectivement de reprendre ma vie en main, de changer mon hygiène de vie, d'abord de m'occuper de mon corps physique en reprenant une pratique sportive, pas intensive, mais régulière, surtout ce qu'on appelle du cardiovasculaire, beaucoup de courses à pied, de vélo, de longues marches en montagne. J'ai décidé de changer ma diététique, sans jamais lire aucun traité de diététique. Et puis aussi, j'ai décidé d'apprendre à mieux maîtriser mes pensées, mes émotions au travers de la méditation. Et cette approche-là a fait qu'au bout de quelques années, rien de ce que m'avait annoncé la médecine ne s'est avéré exact.
Mais alors, vous en avez pris conscience, mais vous racontez que vous avez fait énormément de lectures déjà pour vous orienter dans le chemin à prendre.
Oui, moi je suis quelqu'un de très ouvert, mais enfin je suis un dubitatif enthousiaste, j'ai besoin d'être conforté intellectuellement et rationnellement. Donc, puisque la médecine ne me donnait pas d'issue, j'ai essayé d'aller trouver des chemins de traverse et quand même de trouver des scientifiques qui étaient, on va dire, à l'avant-pointe et qui observaient quelque chose de nouveau. Donc j'ai lu énormément de choses dans le domaine de la biologie cellulaire, dans le domaine qu'on appelle la psycho-immuno-endocrinologie, c'est l'effet placebo ou l'effet nocebo.
Dont on parlait tout à l'heure, hein, effectivement.
Voilà. Et puis, comme je n'avais pas de doc, puisque je ne suis pas scientifique, moi je sors d'une école de commerce, après la cellule, j'ai investigué plus loin dans l'atome, en me disant, tiens, si la cellule ne fonctionne pas, ça veut dire que quelque part, le spin de l'électron n'est pas bon. Et je suis descendu dans ce qu'on appelle la physique quantique. Et au contact de ces scientifiques, non seulement à leur lecture, mais à leur contact, ça m'a ouvert vraiment un nouveau champ de conscience, une nouvelle réalité. Ça m'a permis de changer mon regard sur moi en tant qu'individu, sur mes capacités de guérison, mais aussi sur moi en tant que comme patron, père, époux, et tout ça a profondément changé ma vie.
Gilbert Desmarmolles, est-ce qu'on peut dire d'une certaine façon que vous êtes devenu un professionnel de votre maladie et que vous l'avez géré comme un dossier tout à fait sérieusement?
Peut-être. Enfin, oui, j'ai appliqué peut-être des réflexes que j'avais dans le monde des affaires. Quand un problème survient, j'essaye de voir quel est le message et surtout l'opportunité qui est cachée là derrière. Je pense que la vie met des obstacles devant nous pour nous aider à grandir. Et puis après, il faut appliquer des choses, il faut regarder, être appliqué avec ordre et méthode, et puis essayer de trouver une solution qui... J'aime bien le terme divergent. Aller chercher ailleurs les solutions à un problème.
Expliquez-nous comment vous avez accéléré, selon vous, votre propre processus de guérison.
Au début, en ayant accès à d'autres informations qui n'étaient pas, à l'époque, l'Internet n'était pas si répandu, livré au grand public...
Oui.
En me rendant compte que d'autres vérités étaient possibles. Et puis, je l'ai dit, je suis un dubitatif enthousiaste, je suis ouvert à tout, mais je crois rien comme ça sur papier. Donc, j'ai eu besoin d'expérimenter dans mon corps. Et très vite, quand ça sonnait juste, j'ai été au contact de ces médecins ou de ces thérapeutes qui proposaient une alternative et je l'ai expérimenté.
Alors, qu'est-ce que vous avez expérimenté, en fait? Partagez avec nous.
Le pouvoir de la méditation, ça c'est une première chose. Vous savez, aujourd'hui tout le monde en parle et ça fait la couverture des magazines, mais en 94, vous parliez méditation, on pensait secte. Et donc là, j'ai très vite vu avec des gens qui étaient en même temps des spiritualistes et des scientifiques, le pouvoir que ça avait, ne fût que sur mes tests de sang.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passait au niveau de vos prises de sang?
Ben, on voyait que je parvenais à développer un niveau hormonal que l'absence d'hypophyse, normalement, ne me permettait pas d'avoir.
Oui, donc ça, on pouvait facilement le mesurer, donc effectivement.
On pouvait facilement le mesurer.
Bien sûr.
Donc j'ai fait des mesures pendant 15 ans. Tous les ans, je faisais des tests au CHU pour voir quelle était la composition de mon sang et voir même qu'est-ce qui se passait au travers d'une IRM à la place de mon hypophyse.
Alors effectivement, vous le dites, la méditation, tout le monde en parle aujourd'hui, mais la méditation, c'est combien de temps, vous voyez, c'est quelle fréquence et comment est-ce que vous apprenez à méditer?
Alors la méditation, pour moi, c'est à peu près 40 minutes par jour. Ceci dit, il y a 40 000 façons différentes de méditer. Une marche en silence en montagne ou en forêt, c'est déjà de la méditation. Apprendre à ne pas penser, c'est aussi de la méditation. Donc moi, ce que j'ai trouvé en 94-95 un maître à l'époque, quelqu'un qui avait lui appris la méditation aux Zazen, mais également d'autres pratiques, et qui en quelques cours m'a initié à des choses très simples, qui étaient la pratique de la méditation au travers de la respiration et de la visualisation. Et très rapidement, je me suis senti beaucoup mieux, et en plus, j'ai vu, ça se traduisait dans mes tests médicaux.
Mais qu'est-ce que vous avez visualisé?
Alors ça, c'est... ça dépendait de ce que j'avais à faire. J'ai lu des articles scientifiques qui démontraient l'impact de la visualisation sur votre système, sur le métabolisme et sur vos muscles, entre autres choses. Des études qui avaient été faites au Wisconsin sur ce qui se passait quand quelqu'un se visualisait faisant des exercices avec le bras et avec la main pour renforcer la puissance musculaire. Et donc, étant très conscient, les sportifs le savent, la puissance de la visualisation avant un effort au tennis, au ski, est vraiment réelle. Et ça se traduit par une décharge hormonale, et ça se traduit par quelque chose de spécifique dans le corps. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai utilisé ça. J'ai souvent visualisé mon hypophyse, entre autres, dans la lumière, parce que j'avais lu des articles scientifiques qui montraient qu'en fait, dans chacun de nos organes, on a ce qu'on appelle des biophotons, qui sont des particules de lumière qui permettent aux cellules de communiquer entre elles.
Ça veut dire quoi, écouter son corps, puisque vous avez beaucoup écouté votre corps, hein?
Oui, c'est calmer l'esprit, le mental, qui est tout le temps en train de faire des raccourcis, qui juge, qui analyse, et d'observer ce que vous disent vos ressentis. Votre corps, il sait. Les gens pensent que le cerveau principal est le cerveau cérébral, mais en fait, c'est pas vrai. Il y a des études qui ont été faites aux États-Unis dans les laboratoires en Californie qui montrent que le premier cerveau, c'est le cœur.
Le cœur.
Le cœur, oui, l'onde électromagnétique qu'il envoie. Et en fait, le cœur capte l'information qui est autour de nous avant le cerveau. Et au travers du nerf sympathique et parasympathique, il y a un lien entre le cœur et puis quelque part le cerveau qui est le processeur.
Vous voyez, aujourd'hui, tout le monde parle du ventre, ce deuxième cerveau, vous voyez, donc.
C'est le troisième.
Ah, c'est le troisième, d'accord.
Il y a une boucle entre le cœur, les deux hémisphères cérébraux et le troisième cerveau qui est le ventre. Et on retrouve des neurones dans le cœur et dans le ventre. Mais les tests ont montré que le cœur capte d'abord l'information sans être au niveau de la conscience avant la masse cérébrale.
Oui.
Et donc, en fait, quand vous faites un travail d'alignement, d'apaisement et de méditation dans le cœur, vous allez créer d'abord un premier contact vertueux avec le processeur qu'est le cerveau, qui va déclencher les pensées, et puis les pensées gèrent les émotions, c'est gut feeling. Et donc, il faut tout le temps être dans une forme d'alignement sur ces trois cerveaux.
Vous êtes la preuve qu'on peut déjouer un pronostic médical, qu'on peut refuser la fatalité et faire de sa maladie, comme vous l'avez fait, le point de départ d'une transformation radicale, puisque vous êtes transformé radicalement.
Oui, enfin, j'ai changé mon regard, vous changez de regard, vous changez votre réalité. J'ai d'abord changé mon regard sur moi-même, donc je me suis changé. J'ai pas accepté la sentence, le diagnostic, entre guillemets, mortel de la science.
Ouais.
Je suis en bien meilleure forme aujourd'hui, à 55 ans, je ne l'étais à 30 ans. J'ai fait des choses, j'ai monté dans l'Annapurna à 6000 mètres, il m'arrive de faire 150 km en vélo le week-end, Je cours en règle générale 15 km par semaine. Je ne suis pas du tout un super-homme, mais je suis en très bonne forme, ce que ne m'autorisait pas la science, suivant les prédictions traditionnelles. Donc oui, j'ai changé humainement, mais ce qu'il y a de plus intéressant, c'est qu'en changeant mon regard sur le monde, ça m'a permis aussi de trouver un autre sens à mon existence, à changer de métier, à œuvrer pour des choses qui font beaucoup plus de sens.
D'accord. Et quel est le sens de la vie, alors ?
Oh ben c'est très personnel.
Moi, vous avez trois heures.
moi, je pense avant toute chose que c'est une phrase que j'ai trouvée auprès de tous les enseignements de sagesse et que j'ai trouvée chez quelqu'un également qui s'appelle Théa de Chardin, qui était à la fois scientifique et religieux. Il dit fondamentalement, nous ne sommes pas des hommes qui essayons de temps en temps d'avoir une expérience spirituelle. Fondamentalement, on est un être spirituel, c'est-à-dire qu'on est une conscience qui vient faire une expérience humaine. Et moi, cette compréhension, cette acceptation-là a beaucoup changé ma vie. Ça a donné une autre résonance. Et puis, au travers de ce que j'ai pu expérimenter avec des maîtres de sagesse en méditation ou en relisant les anciens maîtres de Pythagore jusqu'à Ken Wilber, en passant par les grandes confessions, mais les mystiques, j'ai compris que la Terre, en fait, de mon point de vue, est une école. On vient apprendre, évoluer, transmuter. Et donc, j'ai essayé d'aligner mes actions au quotidien sur cette nouvelle croyance, compréhension de ce qu'était la vie.
Bien. En tout cas, merci d'avoir partagé votre expérience avec nous ce matin à votre santé sur Beurre FM. Je rappelle les titres de vos deux livres, Gilbert Delmarmol, donc Tomber plus haut et sans plus attendre. Et puis, je rappelle également cet événement à la rentrée, inédit autour de la santé alternative. Ça s'appelle Se guérir le samedi 14 septembre de 10h à 19h au Grand Rex de Paris, où 12 experts de renommée internationale seront présents et puis des expériences dont on a parlé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et passez une très belle journée sur Beurre FM.
Merci, bonne journée.
Retrouvez À Votre Santé tous les samedis de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.